Bonjour à tous, ça va bien ce matin? Bonjour à ceux qui sont avec nous ici au bâtiment de l'Église de Sentier et aussi à ceux qui nous écoutent par Internet. Je suis content de vous avoir avec nous, même si vous n'êtes pas physiquement avec nous, vous êtes quand même avec nous en esprit. Et ça me fait plaisir de pouvoir prendre ce temps ce matin avec vous pour plonger dans les Écritures, examiner ce que la Bible nous enseigne sur... Dans notre série qu'on continue, les séries dans le livre aux Hébreux, Jésus meilleur que tout. Jésus est plus grand que tout et c'est la continuité de cette série-là et d'un chapitre en particulier, probablement un des plus beaux chapitres de l'Épître et peut-être même du Nouveau Testament et je dirais même de la Bible en entier. Le chapitre 11 que pasteur Normand Joseph a commencé à exposer dimanche passé, et j'ai le privilège de pouvoir continuer là où il a laissé dimanche passé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Farley, je suis un des pasteurs ici à l'église Le Sentier, la plupart du temps impliqué dans la musique et aussi aux études à l'université en ce moment, l'Université Saint-Paul à Ottawa. Donc, j'ai beaucoup de responsabilités, mais... beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que mes responsabilités ont diminué un petit peu depuis que j'ai commencé les études. J'étudie l'équivalent de 3 jours par semaine maintenant à l'université pour faire un doctorat en théologie. Et je travaille encore comme pasteur à temps partiel à 2 jours par semaine. Et c'est un privilège de pouvoir vous servir de toutes les différentes manières que Dieu me permet de le faire, incluant ce matin l'enseignement des Écritures. On va plonger ce matin dans un sujet tellement, tellement profond, tellement intéressant, tellement excitant aussi. Comme je disais en entrée de jeu, c'est la continuité d'une série qu'on a commencé il y a déjà plusieurs mois sur l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, meilleur que tout. Et dimanche passé, Norman nous a parlé de 3 héros de la foi. J'irai pas où Normand est allé là, avec le temple de la renommée, les chandails, parce que j'ai appris après dimanche que Normand avait fait des gaffes avec ça. Il n'a pas dit exactement les. Il était mêlé peut-être dans les dates, il était mêlé. Je sais pas. Moi, j'irai pas là. Je lui laisse. Peut-être dimanche prochain, quand il va venir faire la suite du chapitre 11, il va pouvoir corriger ses erreurs. J'ai décidé de ne pas aller là quand même. Mais Normand avait donné l'illustration que les héros. Dans le temple de la renommée du hockey, on prend leur numéro, leur chandail avec leur numéro, puis on les enlève dans le fond, puis on les accroche dans le temple de la renommée pour reconnaître à quel point ces gens-là ont fait des exploits. Et c'est un peu l'image qu'il avait donnée pour les héros dont on fait la liste dans le chapitre, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et Normand avait parlé de 3 héros qui nous enseignent 3 choses sur la foi authentique. Premièrement, la foi authentique donne son meilleur pour la gloire de Dieu. La foi authentique, deuxièmement, marche avec Dieu, car l'éternité nous attend. Et troisième chose que Norman nous avait enseignée, qui nous vient de ce troisième héros, Noé, la foi authentique proclame l'Évangile en parole et en action. Et aujourd'hui, on va continuer cette exposition-là des héros de la foi. On va voir 2 autres caractéristiques de la foi authentique. En fait, on va voir plus que 2 caractéristiques de la foi authentique, mais j'ai choisi de les regrouper en 2 grandes catégories. Premièrement, la foi authentique. Que fait la foi authentique devant l'incertitude de nos circonstances? Et deuxièmement, que fait la foi authentique devant la menace et l'opposition que l'on peut expérimenter dans notre vie? Donc, à quoi ressemble cette foi authentique-là quand nos circonstances sont improbables, incertaines, quand on ne connaît pas l'avenir et même que l'avenir est plutôt sombre devant nous et les choses que Dieu a promis ne semblent pas s'accomplir ou ne s'accompliront peut-être même pas? Et à quoi ressemble cette foi authentique lorsqu'elle est menacée ou lorsque pour la tenir, on doit peut-être risquer des choses qui nous sont chères? Et lorsqu'on vit de l'opposition à cause de cette foi-là. Il est important de ne pas oublier, par contre, ce que le passage comprend par la foi. On peut parler de la foi authentique qui donne son meilleur, qui marche avec Dieu, qui proclame l'Évangile. qui va faire telle ou telle chose devant l'incertitude ou le risque ou la menace. Mais c'est bien de juste revenir sur de quoi on parle, de quoi est-ce que l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, parle quand elle parle de cette foi. C'est pas seulement une liste de choses qu'on dit qu'on va croire, une liste de doctrines ou de l'information qu'on dit croire, être vrai. C'est, la foi, c'est pas juste dire, ben je crois que ces choses-là sont vraies à propos de Dieu ou je crois que ces choses-là sont vraies à propos de Jésus. La foi est présentée dans le chapitre 11 et même dans toute l'Épître aux Hébreux comme un paradigme de vie dans lequel on va s'engager toute notre personne et tout notre être au complet. C'est comme une vision du monde, de la vie et du monde qui va impliquer tout ce que nous sommes et qui va impliquer comment on voit le cosmos et le monde qui nous entoure. C'est l'adhésion du cœur qui amène un changement de comportement dans notre vie. Un commentateur de l'Épître aux Hébreux qui date des années 50, lui a écrit un commentaire de l'Épître aux Hébreux des années 50 en français, et un commentateur très réputé qui s'appelle Ceslas Spick. C'est rare d'avoir des érudits en français ou des commentaires en français qui sont vraiment de qualité. Puis pour l'Épître aux Hébreux, ça, c'en est un vraiment qui est reconnu par plusieurs qui l'ont suivi. Il a écrit son commentaire a été publié en 1952. Mais encore aujourd'hui, c'est une référence pour plusieurs commentateurs, même dans le milieu anglophone. Et lui avait écrit son commentaire en français. Et lui, il a dit quelque chose d'intéressant par rapport à la foi. Il a dit « C'est une attitude spirituelle où toute la personne prend position, s'engage vis-à-vis de Dieu et de ses promesses. » Donc, ce n'est pas juste une série de choses à laquelle on va adhérer mentalement, comme on va acquiescer avec notre esprit ou notre intelligence, « Oui, je crois ça, oui, je crois ça. » C'est certain qu'on peut exprimer notre foi par ce qu'on va appeler une confession de foi. L'Église des Sentiers, on a une confession de foi. Vous pouvez la trouver sur notre site Internet. On peut avoir un credo qui liste différentes choses que nous croyons à propos de Dieu, de la Bible, de la vie. Mais la foi dont on parle ici, qui nous est illustrée et dont on a des exemples dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'est une attitude spirituelle où toute la personne est engagée par rapport à la personne de Dieu et ses promesses. Toutes ces histoires sont pour nous une illustration de cette foi en action. Cette foi qui ne nous laisse pas inactifs. Mais une foi qui est, comme le verset 1 du chapitre 11 le dit, une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça va faire une différence dans notre vie, cette ferme assurance et cette démonstration des choses qu'on ne voit pas. Puis ces exemples-là et ces histoires-là cherchent à nous encourager à persévérer malgré l'incertitude de nos circonstances ou même la menace à laquelle on fait face. On va donc voir deux grandes sections dans ce chapitre, et on n'aura pas le temps avec le temps qu'on a ce matin là, d'aller en détail dans chacun de ces éléments-là. Mais deux grandes sections. Premièrement, la foi d'Abraham et ses descendants, qui sont des exemples d'une foi qui continue d'espérer, même quand tout semble incertain ou impossible. Et la deuxième groupe de personnes qu'on va voir sont la foi de Moïse et de ceux qui l'ont suivi, qui sont des exemples d'une foi qui pratique le bien et la justice, même quand elle est menacée ou qu'elle vit de l'opposition. Donc, on va lire ensemble Hébreux chapitre 11, verset 8 à 22. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lire le texte, puis après ça, je vais faire des commentaires sur différentes sections qu'on a lues. Fait que si on lit, par exemple, dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8, « C'est par la foi qu'Abraham a obéi, lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. » Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Arrêtons-nous ici pour l'instant. On a donc comme premier exemple de foi, la foi d'Abraham, d'Isaac, et Jacob, en action, les versets 8 et 10. Devant l'incertitude de l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est par la foi qu'Abraham a quand même obéi et qui est parti sans savoir où il allait pour un héritage que Dieu lui avait promis. Un pays dont il ne savait rien. Dieu n'y avait pas dit « c'est là que tu vas aller, c'est ça que tu vas faire ». Il a juste dit « quitte ta famille, quitte ton pays, puis va à l'endroit où je vais t'indiquer ». Mais je ne te le dis pas encore c'est quoi. Mais en chemin, à un moment donné, tu vas peut-être le savoir. Mais pour l'instant, je te le dis pas. Donc, c'est l'idée ici dans la foi d'Abraham qui est illustrée, c'est d'obéir même quand on ne comprend pas tout. Ou même quand notre futur est incertain. Même quand on ne sait pas les prochains pas qu'on a à faire. Abraham a su obéir malgré qu'il ne savait pas les détails de ce qui lui avait été promis. Mais il savait juste que ça lui avait été promis par Dieu qui fait des promesses et qui tient ses promesses. Par la foi, Abraham, nous dit le texte, Isaac et Jacob ont habité dans la terre promise comme des étrangers et des voyageurs, au verset 9. Ils attendaient, on nous dit, la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, au verset 10. C'est intéressant ici parce qu'on peut penser comme, peut-être que vous n'êtes pas familier avec ces personnages-là, mais c'est des personnages de l'Ancien Testament qui sont les pères fondateurs du peuple d'Israël et des personnes que Abraham, une personne que Dieu a choisie et toute sa lignée, sa descendance qui a été choisie pour le plan rédempteur que Dieu voulait mettre en action pour le monde. Ce qu'on voit quand on lit leur histoire, c'est que leur foi ne flotte pas dans le vide. Elle n'est pas sans raison valable. Ce n'est pas juste un gut feeling que ces gars-là avaient que probablement que Dieu va tenir ses promesses. Puis on devrait peut-être y faire confiance, même si on n'a aucune raison apparente de lui faire confiance, parce que les promesses ne semblent pas s'accomplir ou on n'a pas assez de détails sur les promesses qu'ils nous ont données. Un peu comme Norman disait le dimanche passé, dans notre société contemporaine, on a de la difficulté à croire sans voir. On veut toucher, hein? On veut toucher le tapis là, de 16 onces là, que Norman nous parlait. Là, on veut filer ça. Moi, quand il donnait cette image-là, j'ai tout de suite pensé à la COVID. J'ai dit non, on ne veut pas faire ça, Norman. On ne veut pas toucher ce tapis-là. Mais peut-être dans ce temps-là, là, quand il n'y avait pas la COVID, là, mais c'est quand même ça qu'on veut faire. On veut toucher. Mais ici, ces gars-là, il n'y avait pas encore quelque chose de tangible en termes de promesses. C'était quelque chose que Dieu leur avait promis, mais qui ne pouvaient rien voir, c'était dans le domaine de l'invisible. Et souvenons-nous, la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Cette foi-là, ce n'était pas juste un gut feeling, ce n'était pas juste une foi qui flotte comme ça et qui s'enracine dans rien. Non, elle était enracinée dans quelque chose, elle était appuyée sur la révélation de la parole et des promesses de Dieu, et même sur le caractère de Dieu. Et sur l'expérience que ces gars-là avaient passée avec Dieu. Ils avaient expérimenté des choses avec Dieu qui les avaient amenés, Isaac, Jacob et Abraham, à faire confiance à Dieu, même si la promesse tardait encore dans leur vie. Parfois, on pense que la foi, c'est comme un saut dans le vide, c'est complètement irrationnel, on n'a aucune bonne raison pour faire confiance à Dieu, puis on fait juste se lancer dans le vide en espérant qu'il va avoir comme un filet qui va nous rattraper. T'sais. Mais ici, ce n'est pas de ce genre de foi-là dont on parle. On parle d'une foi qui s'enracine dans la révélation de la personne de Dieu. Voici, Dieu s'est révélé, il a dit qui il était, il a transmis sa parole, il a démontré son caractère, et on a pu même expérimenter son caractère et sa personne. On a pu, par notre propre expérience personnelle, voir que Dieu, quand il fait une promesse, il va l'accomplir. C'est un Dieu qui ne ment pas, il est le Dieu de vérité. Mais ça reste que ce genre de foi-là qu'Abraham, Isaac et Jacob ont eu n'exige pas un accomplissement selon les paramètres humains, mais elle laisse Dieu déterminer les paramètres de l'accomplissement. Elle n'exige pas un accomplissement selon mon idée humaine, mes paramètres humains. Et si Dieu est pour accomplir ses promesses, il faudrait que ça soit comme ça, à cette heure-là, à cette journée-là, de cette manière-là, puis que je finisse avec tel résultat. Dieu a promis, nous a promis tellement de choses. Nous a promis la vie abondante en Jésus-Christ. Mais nous, les êtres humains, on prend ces promesses-là, puis on les met dans un cadre, puis dans une boîte humaine que notre mentalité humaine est capable de concevoir. Puis Dieu dit, non. Moi, je suis au-delà de cette boîte-là. Je suis plus grand et plus large que tout ce que tu pourrais imaginer avec ton intelligence humaine. Il faut laisser donc, dans cette foi-là, Dieu déterminer les paramètres de comment il va accomplir ses promesses. La foi de ces gars-là, Abraham, Isaac et Jacob, cette foi en Dieu que Dieu va accomplir la promesse qu'il a faite était basée sur le fait que Dieu est fidèle. Ce n'est pas un menteur. Donc, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Cette foi-là les a poussés à espérer en ce qui n'était pas encore une réalité complète. La foi en Dieu les a poussés à espérer l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc, il y a une relation ici entre la foi et l'espérance. La foi en Dieu, croire qui Dieu est et ce qu'il dit dans sa parole, va nous pousser à espérer que Dieu va faire ce qu'il dit. La foi et l'espérance est intimement reliées. L'espérance ici est une assurance certaine de ce que Dieu est en train d'accomplir en vue de la rédemption en Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier le verset 11.1. Ce n'est pas juste une foi pour une espérance que Dieu va me donner une Ferrari, comme Normand disait dimanche passé, mais c'est une assurance certaine de ce que Dieu est en train d'accomplir en vue de la rédemption en Jésus-Christ. Donc, Abraham, Isaac et Jacob possèdent une foi authentique qui espère en l'accomplissement des promesses de Dieu, même quand elles semblent improbables. Mais au verset 11 et 13 du même chapitre, on lit à propos de la foi, cette fois-ci, de Sarah et Abraham. Au verset 11, on lit « C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, dans certaines versions, on aura déjà usé de corps, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. » Donc ici, on a la foi de Sarah et d'Abraham en action. Devant l'incertitude de l'accomplissement de la promesse de Dieu, Sarah n'a plus l'âge d'avoir des enfants, Abraham non plus, il n'est plus capable de faire ça. C'est incertain, Dieu leur promet qu'ils vont avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles de la mer et le sable, les étoiles du ciel et le sable de la mer, désolé. Bien, il y a quand même des étoiles dans la mer, là, mais elles sont moins nombreuses que le sable. Ça nous dit que par la foi, Sarah fut rendue capable d'avoir un enfant malgré un âge avancé. Pourquoi? Car elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Tu vois, cette foi-là, elle est enracinée, basée sur le caractère de Dieu, sur ce qu'elle croit de Dieu. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ma foi est informée par qui Dieu est, par la révélation de Dieu et par qu'est-ce que Dieu nous a dit qu'il est en train de faire, ou est-ce qu'elle est informée par mon idée humaine de qui Dieu est et de qu'est-ce qu'il est en train de faire? De là l'importance de se pencher sur la révélation de Dieu, sur la Bible, pour savoir à qui on a affaire, quelle sorte de Dieu qui nous fait ces promesses-là, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance, est-ce qu'il est vraiment digne de confiance ou non. Abraham, de son côté, qui était déjà marqué par la mort, de lui naquit une postérité nombreuse. C'était absolument improbable que ça l'arrive à leur âge avancé, il y avait comme 100 ans ou autour. C'était comme vraiment presque impossible. Et pourtant, Dieu a fait ce miracle-là de leur donner un fils de qui est venue une descendance nombreuse. Dieu a fait une promesse. Sarah a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et le plus important là-dedans, ce n'est pas la quantité de foi qu'elle a eue, qu'elle possédait à propos de Dieu, mais c'est en qui elle a placé sa foi. Et c'est la même chose pour nous. Elle a cru à la fidélité de Dieu devant toute improbabilité. Versets 10 à 17 à 19, on ne va pas le lire, mais ici, c'est l'histoire d'Abraham avec Isaac qui a été prêt, Abraham, à offrir son fils unique, Isaac, lorsque Dieu lui a demandé. Abraham avait reçu la promesse, justement, d'avoir une descendance nombreuse et que cette descendance-là passerait par son fils unique, Isaac. Mais son fils Isaac. Et à un moment donné, Dieu lui a demandé, pour le mettre à l'épreuve, d'aller sacrifier son fils, d'aller l'immoler, de prendre un couteau, puis lui trancher la gorge, puis de le tuer sur un autel. Puis le texte nous dit que par la foi, Abraham offrit Isaac, son fils, à la demande de Dieu. C'est où la logique de ça? Dieu fait une promesse, ça va être pas Ishmaël, ça va être ton fils Isaac, par qui tu vas avoir une descendance nombreuse. Puis à un moment donné, out of the blue, Dieu lui demande d'aller le sacrifier. Le texte nous dit bien dans la Genèse que Dieu voulait le mettre à l'épreuve, voulait mettre sa foi à l'épreuve. Mais ce qu'on voit, c'est que Abraham, avait une foi tellement grande dans qui Dieu était et ce qu'il disait et sa capacité qu'il était prêt à obéir, même quand il n'y avait aucune logique dans le commandement de Dieu. En tout cas, à ses yeux, en apparence, il n'y avait aucune logique. Croire que Dieu a une logique plus grande et plus sage que notre logique humaine, c'est quelque chose qui nous amène à vivre la foi d'Abraham. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui a motivé Abraham à faire ce qu'il a fait. Avec sa logique humaine, il n'était pas capable de concevoir le commandement de Dieu, comment ça pouvait faire du sens. Mais il a cru que Dieu a une logique plus grande et plus sage que la sienne. La Bible dit dans Ésaïe 55:9 que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, que ses voix sont au-dessus de nos voix. Et même dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 25, on lit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et que Dieu a choisi d'utiliser quelque chose qui, aux yeux humains, est complètement une folie pour nous sauver. La mort de Jésus à la croix, qui est un scandale pour les Juifs, puis qui est une folie pour les Grecs, nous dit 1 Corinthiens, chapitre 1. Mais Abraham a agi comme il l'a fait, prêt à sacrifier son fils, car il pensait que Dieu est assez puissant pour le ressusciter des morts. Et il a pu recouvrir son fils par une sorte de résurrection, parce que juste au moment où Abraham était sur le point de tuer son fils, l'ange de l'Éternel l'a arrêté. Et ce n'est pas que son fils Isaac est mort et ressuscité, mais c'était comme si, parce qu'il était sur le point de mourir. La foi d'Abraham ici démontre sa croyance que Dieu est grand et puissant pour faire des choses qui nous dépassent complètement. Il brise nos limites humaines d'entendement. Il croyait cela de Dieu au point de se soumettre et obéir à Dieu contre toute logique. On voit le même genre de foi avec Isaac, Jacob et Joseph dans les versets 20 à 21. La foi d'Isaac, de Jacob et de Joseph en action. On ne va pas lire les versets. Mais ce qu'on voit ici, c'est que ces trois personnages-là, qui font partie de la descendance d'Abraham, les trois ont en vue des choses qui étaient à venir et qu'ils n'étaient pas capables de voir de leurs yeux, mais en vue de ce que Dieu avait promis, ont été prêts à croire la promesse de Dieu pour que le plan de Dieu puisse se dérouler. Par exemple, au verset 20, on voit que par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est quoi qui est significatif là-dedans? C'est que Isaac n'était pas encore dans la terre promise. Il n'y avait pas encore une descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Il y avait deux fils, Jacob et Ésaü. Mais il les a bénis avec la foi que Dieu était pour, à travers eux et leurs descendants, accomplir la promesse que Dieu était pour, que Dieu avait faite. Au verset 21, par la foi, Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph. Et il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton parce qu'il était rendu vieux. Encore une fois, Jacob, la même foi qui animait Isaac, a béni ses fils, croyant qu'un jour, à travers les fils de Joseph, Dieu était pour accomplir ses promesses. Joseph lui-même, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et il donna des ordres au sujet de ses os, au verset 22. C'est intéressant, Jacob était mourant, rendu à la fin de sa vie. Il n'avait pas encore vu une descendance innombrable qui sortait de lui-même et d'Abraham. Il y avait une douzaine de fils, plus les deux fils de Joseph. Mais il croyait en la promesse de Dieu. Un jour, il va avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le sable de la mer. Mais à la fin de sa vie, quand il est mort, ce n'était pas réalité, ça. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait voir de ses yeux. La même chose avec Joseph qui était mourant. Joseph a dit, un jour, le peuple d'Israël va être esclave en Égypte ici, mais va être libéré par la puissance de Dieu. Et ce jour-là, il croyait tellement à la promesse de Dieu que Dieu était pour donner le pays promis et une descendance nombreuse, que ce jour, il dit, Joseph, avant de mourir, ce jour-là, là, quand vous allez sortir de l'Égypte, là, quand vous allez avoir été esclave en Égypte pendant des centaines d'années, là, vous allez sortir d'Égypte parce que je crois que Dieu va nous libérer, va libérer le peuple d'Israël. J'aimerais que vous preniez mes os, parce que moi, je vais être mort depuis longtemps, puis que vous les ameniez avec vous dans le voyage qui va vous amener à la terre promise, puis que vous les enterriez à cet endroit-là. Il a donné des ordres au sujet de ses os. Il était tellement convaincu. Fait qu'imaginez, pendant des centaines d'années, les os de Joseph ont resté en Égypte, je ne sais pas où. En quelque part, il a dû avoir quelqu'un qui était comme le gardien des os de Joseph. Il faut s'assurer que les os de Joseph, on ne les perde pas, qu'on ne les perde pas de vue, qu'on ne les mélange pas avec les os de je ne sais pas qui d'autre. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, honnêtement. C'est quand même, quand tu penses à ça, on pourrait faire un film là-dessus, genre la saga des os de Joseph. T'sais. Mais c'est ce que le texte nous dit que c'est ce qu'ils ont fait. Lorsque le peuple a été libéré, ils ont fait ça des centaines d'années plus tard. Abraham et ses descendants ont agi animés par une foi en Dieu, même quand ils n'ont eu rien de ce qui leur avait été promis, de leur vivant sur la terre. Pourquoi ont-ils fait ça? Aux yeux de certains, c'est pure folie. Pourquoi gaspiller ta vie sur quelque chose que tu n'auras jamais, dont tu ne vas jamais pouvoir vraiment profiter pendant ta vie sur la terre? Mais la raison pourquoi ils ont agi ainsi est qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils cherchaient une meilleure patrie, nous dit le texte aux Hébreux, au verset 11, les versets 13 à 16. Une patrie céleste préparée par Dieu qui n'a pas honte d'être appelée leur Dieu. Tu vois, c'est dans la foi, nous dit Hébreux 11, 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ça me fait penser à Jean Ouellet. Jean Ouellet, un homme de notre Église qui a été un des pionniers, qui a même participé activement à la construction du bâtiment dans lequel on se tient, dans lequel je me tiens en ce moment, et qui a participé aussi à l'agrandissement de ce bâtiment en 2011. Jean Ouellet est décédé il y a quelques semaines passées. On a célébré ses funérailles hier ici même. Et les témoignages qu'on a eus à son sujet, c'est comme Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Cette emphase sur le voir est partout dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Abraham ne savait pas où il allait. Il ne voyait pas la terre promise qui était devant lui. Il ne savait pas quelle elle était. Abraham n'avait jamais vu Dieu ressusciter des morts, mais il pensait que Dieu pouvait le faire, puis que si Isaac était pour mourir, qu'il était capable de le ressusciter puis de le ramener à la vie. Isaac, Jacob, Joseph, c'est en vue des choses à venir qu'ils ont béni leur fils, puis qu'ils ont donné des ordres au sujet de leur os, dans le cas de Joseph. Même quand on ne voit pas avec nos deux yeux ici dans notre visage, on peut voir avec les yeux de la foi les choses invisibles. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Leur réalité terrestre ici est une réalité transitoire, temporelle. Ce n'est pas notre demeure éternelle ici-bas sur terre. Ils cherchaient une meilleure patrie que celle qu'ils ont laissée, une patrie céleste préparée par Dieu. Le texte nous dit, si oui, ils cherchaient une patrie, ils cherchaient une maison, ils cherchaient comme de retourner à la maison, mon pays, ma patrie. Là où il y a ma famille. Et le texte nous dit, s'ils avaient eu la nostalgie de leur patrie terrestre, de leur maison d'où ils étaient partis, ils auraient pu retourner. Il y a eu amplement d'occasions, ces personnes-là, de retourner de Ur en Chaldée où Abraham venait. Ils auraient pu retourner, Abraham, quand il a envoyé un serviteur pour trouver une femme pour son fils Isaac, il aurait pu dire, c'est tout quoi, je vais juste retourner dans mon pays puis on va s'établir là, mais non. Même s'il n'y avait pas encore la promesse de Dieu, ce n'est pas cette patrie-là qu'il cherchait, ce n'est pas une patrie sur la terre qu'il cherchait. Il désirait une patrie céleste qui représente une réalité finale et éternelle, pas transitoire et temporelle. Leur vraie maison, leur vraie patrie n'était pas celle qu'ils ont quittée sur la terre, mais celle que tous les êtres humains ont quittée lors de la chute d'Adam et Ève dans le péché. Notre vraie patrie, frères et sœurs, on ne va pas la trouver ici sur la terre. Notre vraie patrie, dans les choses matérielles, les choses périssables, notre vraie patrie, c'est d'être dans la présence de Dieu, c'est d'être réconcilié avec Dieu, c'est d'être avec lui pour l'éternité. Et donc, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu au verset 16. Il est appelé le Dieu d'Abraham, le, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? À cause de leur foi en Dieu. Cette foi en Dieu était une démonstration qu'ils s'étaient attachés à Dieu. Et les actions que cette foi a provoquées démontraient qu'ils étaient vraiment des enfants de Dieu. Toutes ces histoires et personnages nous rappellent que la foi authentique espère en Dieu malgré l'incertitude. Elle est l'antidote à la déception de ne pas encore avoir ce qui a été promis. Et on n'aura pas le temps de le voir ce matin, mais il y a tout un deuxième groupe de personnes, peut-être Normand va pouvoir continuer cette section-là dimanche prochain, mais il y a tout un deuxième groupe de personnes, Moïse et ceux qui l'ont suivi, qui, de leur côté, ont démontré leur foi authentique en continuant à pratiquer le bien et la justice, même quand ils sont menacés à cause de cette foi-là et qu'ils vivent de l'opposition. Mais toi, ce matin, comment va ta foi ces jours-ci? Comment va ton espérance en Dieu? Espères-tu toujours en quoi que ce soit? Ta foi te donne-t-elle la résolution de faire le bien coûte que coûte, comme Moïse et ceux qui l'ont suivi? En quoi espères-tu si tu continues à espérer? Ce n'est pas évident parfois de continuer à espérer en Dieu. Même moi, je vis des épisodes dernièrement où la foi et l'espérance dans le futur et dans l'avenir est souvent mince. Et parfois, j'ai juste le goût d'abandonner. Quand je vis de l'opposition ou qu'il y a un risque à cause de ma foi, quand la peur m'envahit à cause de la foi qui m'anime. Puis, tu sais, on n'est pas les seuls à expérimenter des hauts et des bas dans la foi. C'est pour cela qu'on a besoin des exemples devant nos yeux. Des exemples comme ceux de Hébreux chapitre 11, des exemples comme ceux de Jean Ouellet. Ces héros de la foi qu'on a regardés ce matin ont eu aussi des hauts et des bas dans la foi. Quand on regarde le temple de la renommée des héros de la foi, on voit juste leur exploit. Oui, ils ont fait des exploits, mais il ne faut pas penser que leur exemple est inaccessible. Parce que la plupart de ces personnages-là, mentionnés ici, malgré les exploits de foi qu'ils ont faits, ont aussi eu des épisodes dans leur vie où cette foi n'était pas très exemplaire. Donc, on a besoin d'être réaliste par rapport à eux, puis de ne pas les idéaliser au point où c'est comme plus accessible pour nous. On a besoin de reconnaître que la foi, c'est aussi une grâce de Dieu, comme toutes les autres choses que l'on reçoit de Dieu. Comme eux, on va vivre des hauts et des bas, des moments forts et des moments où notre foi va être plus faible. Mais l'important n'est pas où on est présentement, par rapport à notre foi. L'important, c'est vers quoi on se dirige et vers quoi ou vers qui on pose les yeux. Spick, le commentateur dont je vous ai parlé tantôt, dit « Comment arriver à cette foi inébranlable dont Hébreux 10:22 nous parle? » Il écrit « C'est seulement par la contemplation. » Mais moi, je dis « Mais quelle sorte de contemplation? » Contempler quoi? Contempler qui? Et Spick répond « La foi s'accroît par la considération des exemples des grandes âmes croyantes qui révèlent si nettement les desseins et la conduite ordinaire de Dieu vis-à-vis de ceux qui le cherchent. » Donc, on a besoin de voir et d'entendre ces exemples de l'Antiquité de Hébreux chapitre 11, comme on fait ce matin. Puis, on a aussi besoin de voir des exemples contemporains. Par rapport à cela, j'aimerais ça vous encourager, dans les exemples contemporains qu'on a au milieu de nous, de suivre et de vous abonner à notre nouveau balado en parole et en action. C'est un balado, un podcast. Je ne suis pas supposé dire le mot podcast, mais je l'ai dit pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ça veut dire balado, mais qui comprennent podcast. Ce balado cherche à faire exactement ce que Hébreux chapitre 11 fait, mais avec des héros de la foi de notre propre Église, puis des gens qui sont autour de nous. Puis vous pouvez aller sur églisedesentiers.com pour accéder puis vous inscrire à ce balado-là, en parole et en action. J'ai écouté les épisodes qui sont là et c'est tellement édifiant. Et ça va avoir ce même effet-là que la lecture de Hébreux chapitre 11 a sur nous. Spick, le commentateur en question, continue sa phrase en disant que la foi ne s'accroît pas seulement par la considération des exemples des grandes âmes croyantes, mais d'abord et avant tout par un regard attentivement fixé sur Jésus, source propre de la lumière divine éclairant les hommes. Donc, notre foi s'enracine dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Notre foi devrait donc fixer les regards sur le passé, sur le fait que Jésus est venu une première fois pour tout accomplir afin que nous puissions être en relation avec Dieu et avoir la vie éternelle. Mais notre foi fixe aussi les yeux sur le futur, sur ce que Jésus a déjà commencé et qu'il promet qu'il accomplira complètement un jour lors de sa deuxième venue. Pour chaque exploit exposé dans Hébreux 11, Christ a accompli l'exploit en renversant la nature de l'exploit de foi. Abel a offert un sacrifice qui plut à Dieu. Christ, lui, s'est offert lui-même en sacrifice pour nous sauver. Enoch a été enlevé parce qu'il était agréable à Dieu. Christ est ressuscité et a été enlevé au ciel à cause de sa vie parfaite. Noé a bâti une arche pour sauver 8 personnes, alors que les autres ont péri, et il y était des millions. Christ a péri pour qu'en lui, la nouvelle arche, nous puissions être sauvés en grand nombre. Abraham a quitté son pays natal pour aller vers la terre promise. Christ, de son côté, a laissé sa gloire céleste pour venir sous la forme d'un homme, comme un étranger et voyageur, sans même, dit-il, avoir un endroit où poser sa tête, afin que nous puissions être acceptés dans la cité céleste, dans sa famille. Abraham accepta de sacrifier son fils unique, mais Dieu pourvu un bouc en substitut dans le cas d'Abraham. Christ a accepté d'être sacrifié lui-même et de devenir notre substitut pour que nous puissions être pardonnés et sauvés. Et après cela, Christ est ressuscité. Il nous donne même la vie éternelle. Isaac, Jacob ont béni leur fils en étant convaincus que la promesse de Dieu s'accomplirait. Mais Christ est devenu malédiction en étant pendu au bois, afin que nous puissions recevoir la bénédiction qui était la sienne, la bénédiction éternelle de faire partie de sa famille. Joseph a annoncé la libération du peuple d'Israël et leur esclavage futur et leur entrée dans la terre promise. Christ a été traité comme un coupable alors qu'il était innocent, subissant les conséquences du péché, comme s'il en avait été esclave lui-même alors qu'il n'avait fait aucun péché. Et tout ça dans le but de nous libérer de l'esclavage du péché et de nous rendre libres. Entre la première et la deuxième venue de Christ, on est appelé par la foi à contempler son œuvre rédemptrice, afin qu'on puisse continuer à espérer, même quand tout nous semble impossible. Et afin qu'on puisse continuer à pratiquer le bien et la justice, même quand cela est risqué ou qu'on reçoive de l'opposition. Puis ma prière, c'est qu'on puisse, frères et sœurs, être animés de cette foi-là et contempler la gloire de Jésus, de tout ce qu'il a accompli pour nous, dont je viens de faire la liste là, à la fin. Là. Qu'on puisse le contempler et l'adorer pour qui il est. Et que ça puisse provoquer et générer en nous une foi aussi de qualité que celle d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Jacob, de Joseph. Que Dieu fasse cette œuvre en nous. Amen.